بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous donne la possibilité en ce mardi donc de reprendre un peu les programmes là où on s'était arrêté durant le mois de Rajab. Et les derniers points, les derniers thèmes qu'on avait abordés durant le mois de Rajab concernaient toujours la foi en l'au-delà. Al-Iman bil-Yawm al-Akhir. Je me rappelle qu'on avait commencé Al-Iman bil-Yawm al-Akhir par les premières étapes de la foi en l'au-delà, et cela a commencé par les petits signes de Qiyama, ensuite les grands signes de Qiyama. Et donc, après ça, on est passé à l'étape suivante qui est Al-Mahshar, la résurrection. Et on avait abordé pendant quelques mois, si ce n'est pas même pendant un an, de manière assez irrégulière, un chapitre extrêmement important concernant les péchés et leurs conséquences le jour de Qiyama. Parce que très souvent, nous nous préoccupons de nos péchés, nous demandons pardon à Allah Azza wa Jal pour nos péchés, et nous savons que c'est quelque chose de mauvais. Mais nous ne sommes pas réellement conscients des conséquences des péchés le jour de Qiyam. Si chaque musulman essayait de s'informer sur le caractère irrépréhensible et les conséquences de chaque péché, de chaque mauvaise action, pas de ce monde, les conséquences au jour du Qiyam, alors certainement, cela nous permettrait de nous en abstenir. Alors si on dit à une personne que si par exemple tu fais tel péché, ben dans ce monde Allah va reprendre la bénédiction de ton pain quotidien, ou là il y aura des malheurs qui vont s'abattre sur tes enfants, là ça fait réagir à la personne. Immédiatement je dis que ah bon, si ma famille peut être en danger ou ma subsistance peut être diminuée à cause d'un péché, ben donc je vais arrêter. Parce que cela concerne quelque chose qui est palpable, quelque chose qu'on va peut-être vivre demain ou après-demain. C'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on aime. Mais lorsqu'on parle des adabs, des châtiments dans la tombe, des châtiments le jour de la résurrection, malheureusement très peu de gens sont sensibles à ces paroles. Et ça nous prouve que, ça nous fait comprendre qu'il y a un monde de différence entre notre iman, nous musulmans au XXIe siècle, et le iman, la foi des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Dans certaines sources, il est dit que les sahaba rapportaient que tellement ils avaient la foi, ils avaient la certitude sur tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informait concernant la description de l'au-delà, les bienfaits du paradis et la mise en garde contre les punitions de l'enfer. Il disait qu'à un tel point qu'on avait l'iman et yaqin dessus, la conviction, la certitude sur ces paroles, que même si le ciel s'ouvrait, conditionnel, même si le ciel s'ouvrait et que nous voyons de nos propres yeux le paradis et de nos propres yeux nous voyons l'enfer, cela ne changerait pas notre foi, notre iman n'augmenterait pas. Parce que c'est comme si qu'on les voyait. Et ça, c'est la première qualité qu'Allah Azza wa Jal demande aux musulmans de le Coran, de l'Ostrage du Baqarah, Alladina yu'minuna bil ghaib. La foi en l'invisible. La foi en l'invisible, c'est pas juste croire en Allah et en ses anges. La foi en l'invisible, c'est croire également que chaque chose que j'accomplis, ben si Allah m'a dit qu'il y aura telle conséquence dans l'au-delà. Ou alors pour chaque bonne action que j'accomplis, Allah m'a promis qu'il y aura telle récompense dans l'au-delà, ben j'y crois dur comme fer. J'ai la conviction, c'est exactement comme j'ai la conviction que le 28 du mois, mon salaire est versé. Quand je vais au guichet le 28 du mois, je sais que le 25, le virement a été fait. Je n'ai même pas un pourcentage de doute. On a yakin dessus parce que c'est mujarrab. C'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai l'habitude de constater régulièrement. Mais nous devons avoir une certitude encore plus forte quand Allah a promis quelque chose. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah il tient ses engagements. Et il faut savoir également qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Dans ce verset magnifique, on voit le wasatiyya, le juste milieu de Ahl Sunnah wal Jama'a, le juste milieu du musulman concernant la foi en ce qu'on appelle al-wa'd wal-wa'id. Quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il est ghafur rahim, on doit avoir la certitude dessus. Comme dans le hadith, le Prophète explique que même si un musulman accomplit énormément de péchés, autant de péchés qu'il y a de grains de sable dans le désert, autant de péchés qu'il y a de gouttes de pluie, autant de péchés qu'il y a d'écume dans les mers, et si cette personne retourne vers Allah avec un cœur pur, sincère, un désir de se rapprocher d'Allah avec des remords et l'intention ferme de ne plus jamais recommencer le même péché, Allah est capable de tout pardonner. Parce qu'Allah dit le Coran, Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, quand il veut pardonner, il pardonne tout. Et comme on expliquait à certaines personnes, à notre majlis dernièrement, qu'on ne trouvera jamais un makhlouq, on ne trouvera jamais un être humain, une créature qui sera pardonné comme Allah le pardonne. Si quelqu'un vous fait du tort, on va le pardonner une fois, deux fois. Mais si quelqu'un vous a fait du tort pendant des années, des années, des années, c'est humain de lui en vouloir. C'est humain de ne pas pouvoir tout pardonner. Mais Allah Azza wa Jal, il est le Khaliq, il est Ghafur Rahim. C'est celui qui pardonne, quelqu'un qui revient vers lui avec un cœur sincère. Parce qu'Allah Ta'ala regarde avant tout ce qu'il y a dans le cœur. Malheureusement, nous nous préoccupons énormément. Je ne dis pas excessivement, c'est bien un sens, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. Nous nous préoccupons, nous nous focalisons sur notre aspect extérieur. Quand on voit une personne, par exemple, qui n'est pas barbue, ou une personne qui ne met pas les vêtements, on va dire, islamiques, en Dieu, mais parce que ça c'est juste une question, c'est un tailleur qui l'a fait comme ça. Mais quand quelqu'un n'a pas, yani, l'habit, on pourrait dire, sunnah extérieur, on a immédiatement des mauvaises pensées sur la personne. Que c'est quelqu'un qui n'est pas ban, qui n'est pas régulier, qui n'est pas religieux. Mais subhanallah, vous savez, quand on entre dans la tombe, la première chose qui ressort, c'est ce qu'il y a de le cœur. Quand les anges posent des questions, ce n'est pas une poésie qu'on a appris, ce n'est pas comme un disque dur sur lequel on a mis un programme, ça ressort. Non, c'est ce qu'il y avait réellement dans ce cœur qui sortira, qui nous permettra de répondre aux anges. C'est pourquoi le mouna a fait l'hypocrite. Face aux anges, il est comme le kafir. Il est totalement incapable de répondre parce que dans son cœur, il n'y avait pas la certitude. On va pas trop s'étaler. Juste pour rappeler que quels sont les péchés qu'on avait vus. Tout d'abord, on a vu l'abandon d'une manière générale des cinq piliers de l'islam. On a vu les conséquences de l'abandon de la salat, de la zakat, du ramadan et l'abandon du hajj. On avait vu également, sixième point, la personne qui consomme de l'alcool. Quelles seront les conséquences au jour des comptes? Al-Aqou Liwalide, on s'était beaucoup attardé, celui qui désobéit ses parents. Et quand on avait abordé ce chapitre, on avait dit qu'il n'y a aucune différence dans l'islam entre des parents musulmans et des parents non musulmans. Concernant leurs droits, concernant nos devoirs envers eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est quoi? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si ils vous disent de faire quelque chose qui est contraire à la religion, d'adorer autre qu'Allah, de faire quelque chose qui est synonyme de péché. Comme le prophète dit, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. On obéit, on n'a pas le droit d'obéir une créature qui vous incite à désobéir le Créateur. Ça, c'est clair. Dans le cas où les parents nous demandent de faire quelque chose qui est haram, là, on ne les obéit pas. Mais, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ, qu'on garde encore, qu'on continue à garder de bonnes relations avec. Donc ça, on avait développé. Ce qu'on a vu également, le huitième point, c'est surtout des péchés en relation avec le cœur. Al-Takabbur, les gens qui font preuve d'orgueil et de fierté, ça, c'est quelque chose. On peut avoir tous les défauts du monde, et Allah peut pardonner. Mais il y a un seul défaut que le musulman n'a pas le droit d'en avoir, même pas un poisson dans son cœur, c'est la fierté et l'orgueil. Parce que ça, c'est la parure d'Allah Azza wa Jal, qui est le Khaliq, le Malik, c'est lui qui est au-dessus. Mais aucun makhlouq n'a le droit d'avoir ce défaut dans son cœur. On a vu également Al-Ghuloul, on a vu également Sahib al-Wajhain, mais on ne va pas tout développer. La personne qui a deux visages, qui devant certaines personnes, il présente un visage, on va dire l'hypocrite, d'une manière générale. Al-Mannan bima a'ta, celui qui donne et qui fait entendre qu'il a donné, que je t'ai aidé, moi j'ai fait ihsan envers toi, j'ai aidé ton papa qui t'a difficulté, maintenant tu dois avoir une reconnaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui donne et qui veut être reconnu pour le geste, pour sa sadaqa. Rasibul ard, on a vu également celui qui vole la terre de son prochain. Et ça, on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes d'héritage. Subhanallah, il y a deux jours, j'étais dans une ville, pas ici, il y a des adultes dont les parents sont encore vivants. Ils m'expliquent que voilà, on a eu tel problème, nos parents ont fait une donation, mais les parts n'ont pas été égales. Et moi, j'ai eu un dixième de ce que mon frère a eu. Et puis je dis, mais qui c'est qui a donné nasihat? Qui c'est qui a recommandé à vos parents d'agir ainsi? On ne parle pas d'héritage, on parle de donation. Et ça veut dire que ça, c'est des problèmes graves, ça. Ça, c'est des problèmes qui vont causer une cassure souvent irréparable dans une famille. Ça peut être une famille soudée, unie. On a tous grandi ensemble, les frères, les sœurs, nos ides, nos bakrides ensemble, les bons moments, les moments difficiles ensemble, les mariages, les alhamdoulilah, les enfants, tout. À l'âge de 30 ans ou de 35 ans, un des parents meurt ou les deux parents meurent. Le partage n'a pas été fait de manière correcte, suivant la charia. Ou alors, il y a eu favoritisme, où il y a eu oppression, il y a eu vol, il y a eu une injustice. Mais les mêmes frères et sœurs qui ont grandi ensemble pendant 35 ans, ils peuvent devenir du jour au lendemain ennemis. Parce que ça, c'est la réalité de dunya. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla donne beaucoup d'explications dans le Coran. Yusikum Allahu fi awladikum. Ce long verset avec beaucoup de mots qui se rapprochent de Shariat. Il y a explication. Hein, il y a des explications tellement techniques que même les notaires de nos jours s'inspirent pour comprendre quel est le partage le plus juste. Donc, rassez-vous l'ordre, un péché très grave. Et je vous avais expliqué, je connaissais même le cas d'une personne. La personne m'a dit que voilà, mon papa, avant de mourir, dans le testament, il avait écrit que telle villa, tel endroit, c'est pour mon petit-fils qui s'appelle, on va dire un nom, Mohammed. Et telle personne est passée par derrière, il savait où papa rangeait le testament, et il a changé, il a mis du blanc, je ne sais pas quoi, il a mis son nom à la place. Tu regardes ce qu'elle a fait. Mais subhanallah, ça, cette personne-là, elle va jouer de ce lien combien de temps? 30 ans? 40 ans, mais après, quelles sont les conséquences du jour de Qiyam? La ilaha illallah. Wallahi, ça prouve le décalage qu'il y a entre notre iman et le iman des sahaba. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous savez, cette femme qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait accompli l'adultère, avait commis l'adultère, elle a fait une erreur. Ça nous fait comprendre que, à toutes les époques, les humains peuvent faire des erreurs. Et cette dame-là, elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Viens, Rasulallah, oh prophète d'Allah, purifie-moi. » Vous savez que la lapidation, ça a été, Allah l'a prescrit dans ce but, à condition qu'il y ait un hakim, qu'il y ait un charia qui est appliqué. Et là aussi, il ne faut pas croire que nous occidentaux, ça nous fait comprendre que la lapidation, c'est que pour les femmes. Non, celui qui a fait le zina, un homme aussi. Maintenant, si les conditions sont réunies. Mais vous savez qu'en général, on ne peut jamais réunir les conditions. Ça, il y a une sagesse aussi dedans. C'est que si la personne va voir le hakim, qu'il avoue, j'ai fait tel péché. Et celui qui y va, c'est vraiment, il a l'imam solide. Cette femme, elle va voir le prophète sallam. Et le prophète sallam, il a beaucoup de pitié pour cette personne. Il voit que cette dame attendait un enfant. Le prophète sallam a dit à cette dame, attends, accouche, et quand tu auras ton enfant, tu reviendras et on verra. Et le prophète sallam avait l'espoir que cette dame, elle aura son enfant et puis elle va passer dessus. Elle va passer à autre chose, elle va élever son enfant. Le prophète sallam avait l'espoir que cette dame demande tawbah à Allah et ne revienne pas vers lui. Parce que le prophète sallam ne voulait pas lapider cette dame. Commentaire des hadiths. Et donc, quelques temps après, cette dame vient vers le prophète avec un nourrisson. Dit au prophète d'Allah, la même fois, Rasulallah, tahirni. Ça veut dire quoi, tahirni? Purifie-moi. Mais c'est quelqu'un qui sait que quand il va voir le prophète, elle sait pertinemment que qu'est-ce qu'il attend? C'est pas quelque chose de facile, mais qu'est-ce qu'il y a de le cœur de cette sahabi? C'est qu'elle sait pertinemment que les châtiments de l'au-delà, c'est quelque chose de douloureux. Elle préfère souffrir de ce monde et rencontrer Allah Azza wa Jal sans qu'elle n'ait à rendre compte de cette erreur. Le prophète me dit que non, ton enfant, ton bébé est encore petit, hein, laisse-le grandir, quand il sera autonome, tu reviendras. Et là aussi, le prophète avait espoir que cette dame, elle s'en aille et qu'elle ne revienne plus. Et elle est revenue. Et le prophète a dû appliquer parce qu'Allah lui a ordonné d'appliquer si la personne veut être purifiée, donc dans ce cas précis. Et là, quand au moment où elle était, où on terminait avec elle, il y a une personne qui l'a maudit. Une personne qui a dit que oui, tel péché qu'elle a compris, elle m'a dit que, attention à ce que tu dis, cette personne a demandé un tel tawbah avec Allah, que si ce tawbah-là était, on le partageait chez toute la population, Allah aurait pardonné à tout le monde. Ça c'est l'iman des sahaba. Il dit que si ce tawbah avait été partagé à toute la population, tout le monde aurait eu le pardon d'Allah, tellement cette dame-là, cette femme, elle a demandé un tawbah de Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait également ce 15e point, hein, celui à qui Allah a donné des responsabilités, mais il ne s'acquitte pas de ses responsabilités. Quelqu'un est amir, ou il dirige un groupe, ou je ne sais quoi, et quand les gens ont besoin de lui, ben la personne se retire. Ça, on avait expliqué. On avait expliqué également celui qui demande la sadaqa, alors qu'il en a les moyens. Celui qui raconte de faux rêves. Il y en a qui disent que j'ai vu le prophète me venir en rêve. Il m'a dit, Tachol, le but c'est quoi? C'est que les gens lui donnent de l'importance. Ça c'est quelque chose de... Allez, ça c'est... il y a des conséquences énormes, on avait expliqué également. Il y a un grand chapitre qu'on avait développé de manière assez virulente, hein, je me rappelle. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas mis sur le site, hein, la sorcellerie. La sorcellerie, on avait développé ça avec beaucoup de détails et beaucoup de mise en garde contre ce fléau qui est omniprésent dans notre communauté. Wallahu musta'an. On avait mis en garde des personnes qui vont voir des gens pour faire des sorts contre leur prochain. On avait expliqué quels sont les conséquences que la personne perd littéralement son iman. Vous aurez eu votre vengeance sur la personne qui a une plus grande maison que vous. Vous aurez eu votre vengeance sur celui qui a épousé celle que vous aimiez, etc., etc. Pendant combien de temps vous allez jouer de votre vengeance? 20 ans, 30 ans, mais quand l'ange de la mort reprend votre âme, il prend votre âme comme l'âme d'un kafir. Parce que le prophète m'a dit que, le hadith encore en tête, « Man ata arrafan » Non, c'est pas ça encore. Je n'ai pas le hadith. Celui qui va voir donc un sorcier, « Fasaddaqahu bima qal, faqad kafara bima unzir ala Muhammad » Celui qui va voir un sorcier, un devin, et qui croit, et qui fait confiance. Alors cette personne a fait le coup, il a renié ce qui m'a été révélé. Donc, que des personnes qui osent aller voir des sorciers ou autres pour jeter des sorts sur les gens quand ils ont des problèmes ou quand ils sont jaloux, qu'ils soient très attentifs, qu'ils font très attention que le jour où l'ange de la mort reprend leur âme, c'est possible que leur âme reprend, soit repris comme l'âme d'un kafir et qu'ils se retrouvent dans la tombe, dans la situation d'un kafir, le jour du mahshar de la situation d'un kafir. On a vu également celui qui abuse des biens de l'orphelin, ça c'est on n'avait pas développé parce que ce n'est pas des choses qu'on retrouve souvent. On a vu également celui, ça c'était le dernier point, celui qui accuse ou qui porte atteinte à la dignité d'une femme musulmane, en l'accusant d'adultère, en l'accusant de tromper son mari. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, dont le but c'est de semer la zizanie. Il y a des gens qui, hein, on peut parler de shayatin al-ins, parce que parmi les shaytans, il y a des humains, shaytans aussi. Et le but c'est de semer la discorde, la zizanie, et qui font tout pour casser les coups par jalousie ou par frustration. Et on avait vu quelles sont les conséquences, hein, sur le fait d'accuser une femme alors que c'est une dame qui était vertueuse. Et le 22e point, c'était katmul ulama. Alors ça c'est surtout pour les savants, celui qui a la science mais qui ne le partage pas. Celui qui a la science religieuse et à qui on demande des questions mais qui ne veut pas, pour une raison ou une autre, donner de sa science religieuse. Donc on avait résumé, hein, c'est pas tous les péchés, vous vous rendez bien compte, mais on avait résumé quelques-uns des péchés les plus courants, les plus répandus dans notre société. On avait également, j'ai dû zapper ça, hein, Ad-Dayyus, je ne retrouve pas, ce père de famille ou ce mari qui sait pertinemment que sa femme le trompe, ou qui sait pertinemment que sa fille sort avec un garçon et fait le zina, mais qui ferme les yeux, qui ne s'oppose pas. On a vu que ça c'est un péché détestable et Allah Azza wa Jal, hein, a promis des iqab, des châtiments le jour du Qiyam. Donc ça c'était un résumé de ce qui avait été fait durant le dernier chapitre. Maintenant, on va pas trop tard, on a 16 minutes, on s'arrêtera à 30 minutes inshallah. Un chapitre beaucoup plus attrayant, un chapitre qui, inshallah, qui nous concernera plus que le premier, inshallah. Maintenant, la situation al-Atqiya, les gens pieux le jour de Qiyam. On avait vu dans le premier chapitre, au début on avait parlé des kuffars, ceux qui n'ont pas iman, quelles seront la situation le jour de Qiyam. Et dans un second temps, on avait parlé de la situation du musulman qui a fait des péchés, et quelles seront les conséquences du jour de Qiyam. Maintenant, dans le troisième et dernier chapitre, parce qu'il y a trois catégories de personnes, il y a Al-Atqiya, les mu'mines, celui qui avait la foi en Allah et celui qui était le bon adorateur d'Allah. Comme dans le verset du Coran, Allah dit Summa, awrafna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Dans ce verset, Allah explique qu'il y a trois catégories de personnes. Faminhum zalimun li nafsi, le pécheur, celui qui se fait du tort, qui cumule les péchés. Waminhum muqtasid, celui qui est entre les deux, c'est-à-dire il fait de bonnes actions, mais malheureusement il fait des péchés. Il demande tawbah, mais il retourne dans le péché. Mais en même temps, il fait ses salats, il fait des bonnes actions. C'est peut-être notre situation à nous. Et enfin, il y a la crème des crèmes. Waminhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Ceux qui, alhamdulillah, ils font leurs obligations et ils font plus que ça. Et ils font même des nawafil, des mustahabbat, des choses qui ne sont pas obligatoires, mais ils le font par amour pour Allah. Et ces gens qui s'abstiennent du haram, bien sûr, de l'interdit, mais qui s'abstiennent également de ce qui est makrouh, de ce qui est détestable, et qui s'abstiennent également de ce qui est douteux. Ça, c'est le plus haut degré de iman, le plus haut degré de taqwa. Et c'est sur ce mot-là qu'on va emboîter pour commencer donc ce chapitre, c'est la taqwa. Tout tourne autour de la taqwa. Parce que la taqwa, c'est quelque chose qui est dans le cœur. La taqwa n'est pas visible. Ma barbe est visible. J'ai la plus grande barbe de tout le monde. Mon vêtement est visible. Le parfum, le oud que je mets, c'est visible, etc., etc. C'est des choses visibles. La salat que je fais, c'est visible, etc. Mais la taqwa, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et notre prophète, en parlant du cœur, il a dit qu'il y a dans le corps de l'homme une partie, mudra. Il a saluhat. Saluhal jasadu kullu. Si ce membre, voilà, on pourrait dire, en français, on dirait un muscle, hein, mais cette partie, cet organe est sain, alors c'est tout le corps qui sera sain, en parlant du cœur. C'est-à-dire que si le cœur, pas dans le sens médical, hein, dans le sens spirituel, si le cœur de l'homme, le cœur du musulman est pur, alors cette pureté va rejaillir à travers chaque action que je vais faire, à travers mes actes, à travers mes paroles, à travers mes intentions, à travers mes pensées. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de travailler ce cœur, de purifier ce cœur. Nous, on fait, alhamdulillah, beaucoup d'efforts sur les amal zahira, les actions extérieures. Mais les actions batin, les actions qui sont dans le cœur, la confiance en Allah, la confiance totale en Allah Azza wa Jal, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, la honte, le fait d'avoir al-haya, d'avoir honte d'Allah Azza wa Jal quand on a accompli des péchés. Maintenant, concernant les péchés, la jalousie, l'hypocrisie, tous ces choses-là qui pourrissent notre cœur, et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a expliqué quelles sont les conséquences des péchés intérieurs. L'exemple qu'on avait cité il y a quelques jours également, ce fameux fléau, cette jalousie, le prophète m'a dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois. Alors moi je fais plein de bonnes actions, mais dans mon cœur il y a ce défaut-là, cette jalousie. Et cette jalousie-là a comme conséquence de détruire les actions que j'ai cumulées. Alors, pour parler de cette taqwa, comme on l'a dit, tout va tourner autour de la taqwa. Et la piété, la crainte d'Allah, il y a différentes étapes. Certaines personnes ont un quota de crainte d'Allah faible, d'autres un quota un peu plus élevé. Et en fonction de la crainte d'Allah, en fonction de la taqwa que j'ai dans mon cœur, cela me permettra d'accomplir ou non les bonnes actions. Si j'ai la crainte d'Allah, j'ai la présence d'Allah dans mon cœur, on appelle ça également muraqabatullah. Le terme précis pour désigner penser à Allah Azza wa Jal, c'est muraqabatullah. Muraqaba, dans le sens littéral, c'est avoir la pensée, surveiller. C'est-à-dire que le musulman, ça c'est le ihsan. Le ihsan c'est quoi? C'est an ta'bud Allah kannaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. C'est adorer Allah avec la conviction qu'Allah me voit. Si le musulman a cet état d'esprit, il est impossible pour lui d'abandonner une obligation. Arrivé le salat al-fajr, je suis fatigué, je ne vais pas me retourner, rabattre la couette sur moi et dire que je dois encore 5 minutes. Impossible. Impossible. Parce que je suis conscient que Allah me voit. Et on pourrait même dire qu'Allah m'observe. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ce verset a dit qu'il est plus proche de l'homme que ses veines jugulaires. C'est une métaphore pour qu'on comprenne bien qu'Allah, il nous connaît parfaitement et il nous voit parfaitement. Et pareil, si j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur, il ne m'arrivera jamais d'aller vers un péché. Faire un péché sans faire exprès, ça arrive à tout le monde. Parce que nous restons des humains. Mais faire le niya délibérément, yani préméditer un péché et aller vers le péché, jamais on ne le ferait si vraiment on a la crainte d'Allah dans notre cœur. Donc, l'important de développer la... Subhanallah, je vais vous donner un exemple. Pour qu'on comprenne, nous qu'on parle de taqwa, ça paraît comme quelque chose d'abstrait. Le sahaba, un certain récit dit que le sahaba qui était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de voyager. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, awsini, au prophète d'Allah, donne-moi un wasiya, un conseil pour mon voyage. Le prophète n'a pas fait un grand discours. Le prophète lui a dit, ittaqillah, et la crainte d'Allah de ton cœur. Garde la crainte d'Allah de ton cœur. On va dire, développe la crainte d'Allah de ton cœur. Et ce sahaba se met à pleurer. Parce que c'est des paroles qui lui ont touché dans son cœur. Il sait c'est quoi avoir la crainte d'Allah. C'est le summum de la foi. C'est l'objectif à atteindre pour le musulman. C'est atteindre le degré de ihsan, être convaincu qu'Allah me voit dans toutes les situations de ma vie. Donc, celui qui a la taqwa de son cœur, qui a la crainte d'Allah, cela le permettra d'accomplir les bonnes actions. Il n'aura pas de frein face à l'accomplissement des bonnes actions. C'est ce qu'on appelle as-sabru ala ta'a. Il aura l'endurance dans l'accomplissement des bonnes actions. Également, celui qui a la taqwa de son cœur ne sera pas victime des waswasa, des insufflations de shaitan. Quand shaitan vous met des mauvaises pensées et vous incite à faire le mal, cette crainte d'Allah vous permettra d'avoir le dessus et vous permettra de ne pas tomber dans le piège de shaitan. Ça fait deux. Troisième chose, avec la crainte d'Allah, on pourra contrôler notre nafs. Inna nafs ala amaratum bisu. Quand notre ego nous demande de faire un péché, alors cette taqwa nous permettra de, comme on dit en créole, de craser notre nafs, c'est-à-dire d'avoir le saytara, d'avoir le dessus sur notre intérieur. Ça c'est dans notre vie, dans ce dunya. Quatrième point, celui qui a la taqwa, Allah Ta'ala l'honorera. Et Allah Ta'ala aime les gens qui ont la crainte, qui ont sa crainte dans son cœur. Et le jour de Qiyamah, plus on aura de taqwa, plus notre degré sera élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sixième point, celui qui avait dans son cœur la crainte d'Allah, kana fi ma'man min al-faza'i wal-khawf, cette personne sera à l'abri de toute crainte, de tout châtiment, de n'importe quelle chose qui va effrayer ceux qui n'avaient pas la taqwa. C'est-à-dire le jour de Qiyamah, cette personne aura la tranquillité, la sakina de son cœur, alors que les gens seront affolés par ce qu'ils vont voir le jour de la résurrection. Et quand on dit que Allahu waliyul ladina amanu, que Allah il est le wali, il est proche il est avec ceux qui ont la foi en lui. Les ulama, rahimahullah, ils expliquent que celui qui... Kalam ajib, c'est une parole magnifique, il dit que alladhina yu'minuna billah wa yastaqimun wa ya'maluna as-salihat. Trois choses: celui qui a la foi en Allah et qui reste ferme dans sa foi, istiqama, wa ya'maluna as-salihat, qui accomplit les bonnes actions, fa huwa waliyuhum fi dunya. Allah Ta'ala est avec eux dans ce monde. Chaque décision qu'ils vont prendre dans n'importe quelle situation de leur vie, ils ont la certitude que Allah est avec eux. Dans ce qui leur arrivera de bien, ça vient de la part d'Allah. Les choses difficiles qui vont les toucher, ce seront là même des épreuves de la part d'Allah, dans le but d'élever leur iman et d'élever leur grade. Wa waliyuhum 'inda al-ba'thi. Ces personnes trouveront Allah proche d'eux le jour de la résurrection. C'est-à-dire, Allah sera avec eux. Allah va les aider quand ils seront ressuscités. Wa waliyuhum yawm al-qiyamah. Et Allah sera avec eux d'une manière générale le jour de qiyamah. Wa 'inda al-wuquf bayna yadayhi. Celui qui a la crainte d'Allah, il verra qu'Allah va l'aider lorsqu'il sera appelé devant le tribunal d'Allah, bayna yadayhi, pour rendre compte de ses actions. Et il va voir qu'Allah Ta'ala va lui accorder sa nusra, parce que dans ce monde, il avait la crainte d'Allah. Wa 'inda al-hisab wal mizan, dans toutes les étapes au niveau des comptes, au niveau de la balance, istilam et suhuf, au moment de récupérer les livrets des actions. Et c'est dans ces étapes, cruciales, c'est dans ces étapes cruciales là qu'on va voir quelle était l'importance de la taqwa dans ce dunya. Maintenant, la question qu'on peut, se poser, c'est à nous de voir, est-ce que dans ce monde nous préférons développer l'amour du dunya? Est-ce que nous préférons suivre tel mode de vie? Quand nous discutons avec certaines personnes, des musulmans, ils vous disent clairement qu'on vit dans une société qui est différente maintenant. Il y a certaines choses qui sont haram, mais on ne peut pas les éviter. Quand on parle de l'intérêt, oui, mais de nos jours, l'intérêt, ça fait partie de la vie, on ne peut pas travailler sans intérêt. Quand on parle des relations entre les femmes et tout, le fait qu'il ne faut pas donner la main à une femme, il ne faut pas faire la bise, il ne faut pas être là, il ne faut pas être seul, oui, mais le mode de vie de nos jours, c'est comme ça. C'est le mode de vie occidental, on n'y peut rien. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Mais subhanallah, à nous de voir quel mode de vie nous voulons suivre. Maintenant, si nous suivons un mode de vie qui va à l'encontre de nos principes religieux, un mode de vie qui ne nous permettra pas de développer la crainte d'Allah, mais bien au contraire, un mode de vie qui nous fera reculer de pas en pas de notre crainte d'Allah, n'espérons pas le jour de Qiyama être avec les muttaqin. Si nous n'avons pas pris le chemin des gens qui avaient la crainte d'Allah dans tout ce que nous faisions dans ce dunya, ne rêvons pas. Comment pouvons-nous espérer être le joueur de Qiyama avec les muttaqin? C'est pas avec Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan qu'on sera ressuscité. On ne peut pas choisir un autre chemin et vouloir être parmi les pieux le joueur de Qiyama. Donc il y a un choix à faire. Et par le biais de ce choix, il faut parfois prendre des décisions. Il faut savoir mettre ses shahawad, mettre ses envies, ses désirs de côté, et pour se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, on terminera avec ça. Un verset que tout le monde connaît. Lorsque la tête du Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent que notre Dieu est Allah, il reste ferme. Tatanazzalu alayhimul malaika. Alors là, ça c'est une bouchra. Ça c'est une bonne nouvelle. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal annonce que lorsqu'un mu'min va quitter ce monde, c'est-à-dire quand l'ange de la mort vient reprendre son âme, c'est là, et ça on l'avait développé une fois, que c'est la première étape, c'est-à-dire que lorsque l'ange de la mort vient, on a un pied de ce monde et on a un pied de l'au-delà. C'est-à-dire qu'on est encore parmi les vivants, mais on commence à entrer de l'autre monde parce que nous voyons des choses que le vivant ne voit pas. Nous voyons les anges, nous voyons la rahmat d'Allah qui descend, ou alors le azab d'Allah, qu'Allah nous protège, descend. C'est-à-dire qu'on a un pied déjà dans le monde de l'invisible. Et là, ce mu'min qui quitte ce monde, il voit les anges. Tatanazzalu alayhimul malaïka. Les anges qui viennent. Dans certains hadiths, il dit que pour le bon musulman, avant de mourir, avant que l'ange de la mort ne vienne, il y a un cortège de 500 malaïkas qui viennent et qui s'assoient jusqu'à perte de vue et qui lui annoncent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Tatanazzalu alayhimul malaïkatu alla takhafu wa la tahzanu. Et ces anges ont pour but de l'annoncer, donc cette bonne nouvelle, qu'il n'ait pas peur. Alla takhafu, n'ayez aucune crainte. Et en commentaire, nous faisons dire qu'il n'y a aucune crainte de quoi concernant le futur. Pour les étapes qui vont venir là, maintenant, et après, Allah ta'khafu. N'ayez aucune crainte, tout ce qui va t'arriver, ce sera que des choses positives, car Allah est satisfait de toi. Wala tahzanu. Et ne soyez pas triste. Et en commentaire, les Moufassins disent que ne soyez pas triste pour tout ce qui est passé, pour votre vie de ce dunya, pour les difficultés que vous avez pu avoir. N'ayez pas de remords, ne regrettez strictement rien. Vous avez, pourquoi? Parce que vous avez réussi votre épreuve du dunya. Vous avez réussi votre passage dans ce monde et vous quittez ce monde avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette hadith que l'ange de la mort, pour le muttaqi, il vient dire Allahu yuqri'uka salam. Il vient dire au défunt qu'Allah t'adresse ses salams. Ça c'est le summum ça. Quand quelqu'un quitte ce monde et que l'ange de la mort lui dit qu'Allah te transmet ses salams, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire qu'Allah nous a acceptés et que d'étape en étape, nous savons que nous allons vers notre Seigneur. Wa abshiru bil jannah. C'est dans ce dunya que les anges annoncent au muttaqi que Allah te donne la bonne nouvelle du paradis. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Le paradis qu'Allah vous avait promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nous étions donc vos alliés dans ce monde et nous serons également avec vous le jour de Qiyam. Parce que dans ce monde, les anges demandent en permanence des doigts pour les gens qui sont pieux. Surtout la crainte d'Allah de leur cœur, les mu'minis salihin, ils bénéficient des doigts de la part des malaïka. Et puis, quand tu vois la kumfiha ma tashtahi anfusukum, wa la kumfiha ma tadda'un, les promesses de l'au-delà, nuzulam min ghafour irrahim, en rappelant qu'Allah il est ghafour, Allah est pardonneur, et surtout Allah est rahim, Allah a la pitié, Allah est clément. Et ça rejoint également le verset ya ayatuha nafsul mutma'inna. Tous ces versets-là, nous devons les apprendre par cœur, nous devons connaître le sens, parce que ça c'est bouche-là. Quand nous vivons des situations difficiles, il y a des fois où on se dit, mais jusqu'à quand on pourra pratiquer notre dîn, tellement il y a des pressions, tellement il y a des gens qui se moquent de vous ouvertement, mais sachez que celui qui reste ferme dans la pratique de sa religion, il doit se mettre à l'esprit que Allah m'a annoncé ce verset. Allah m'a annoncé, ya yatuhanna sul mutma'ina irji'i, retournez pour ces gens pieux, il a rabbi ki rabia ta marziya, retournez vers Allah qui est satisfait de vous. Ça, c'est les plus bonnes nouvelles qu'un mu'min peut avoir en quittant ce dunya. Et de la sorte, il y a beaucoup de versets. On va s'arrêter, on avait 5 ou 6 versets à citer. Mais tous ces versets tournent autour du même sens que celui qui a vécu avec la foi en Allah et qui restait ferme dans sa foi et qui accomplit les bonnes actions. Et quand on dit accomplir les bonnes actions, ça veut dire également de rester éloigné des péchés. Alors la personne aura la tranquillité dès le moment où l'ange de la mort reprend son âme. Tranquillité dans la tombe, tranquillité dans toutes les étapes de là, et Allah Azza wa Jal sera satisfait de cette personne. On va conclure avec ce verset. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Bonne nouvelle pour celui qui a ces caractéristiques, qu'il n'y a aucune crainte d'oppression. Il n'y aura pas de zulm le jour de Qiyam. Dans ce monde, il y a des fois où il y a de l'injustice. Vous pouvez travailler correctement, faire votre travail avec assiduité, mais à la fin, votre patron n'est pas content de vous. Alors que votre propre collègue, lui, il s'absentait, il prenait des pauses déjeuner de 30 minutes au lieu de 5 minutes, etc., etc. Et à la fin du mois, il gagne comme vous et on pense que c'est lui l'employé modèle. Il y a des injustices, des vols sont partout de ce dunya. Mais le jour de Qiyama, il n'y a pas d'injustice. Bien au contraire. Vous accomplissez une bonne action, manja abil hasanati falahu, au moins 10 amthaliha. Vous accomplissez une bonne action, au minimum Allah vous en rétribue 10 fois plus. Et ça peut aller beaucoup plus haut en fonction de la sincérité. Donc le jour de la résurrection, il n'y a pas d'injustice. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Le moindre petite bonne action qu'on accomplit, Inch'Allah, on le verra le jour de Qiyamah. Mais attention également, celui qui accomplit même un petit péché risque de le voir dans l'au-delà si la personne n'a pas demandé tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va terminer avec ça. Il y a une citation, hadith Qudsi, magnifique. Ça, ce genre de hadith-là, ça, il faut écrire, graver. Il faut mettre en page d'entrée de notre ordinateur, en page d'entrée de nos portables. À chaque fois que j'allume mon portable, je vois ça. Hadith magnifique. C'est une promesse d'Allah. Enfin, ça me dit que Allah Ta'ala dit Wa izzati wa jalali, je jure par mon honneur et ma grandeur, La ajma'u li abdi amnaini wa la khawfain. Je ne donne pas de tranquillité ni deux craintes à un même serviteur. On explique In huwa ammanani fi dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Si mon serviteur n'avait aucune crainte de moi de ce monde, c'est-à-dire il vivait comme il voulait, il n'avait même pas une pensée pour Allah, il n'avait aucune crainte d'Allah, c'est-à-dire il faisait les péchés qu'il voulait quand il le voulait, alors celui qui avait la tranquillité, cette mauvaise donc tranquillité dans ce dunya, assurément cette personne ne pourra être tranquille le jour de Qiyama. Cette personne aura la crainte dans son cœur, la peur, l'angoisse le jour de Qiyama. Wa in khafani fi dunya, et si cette personne avait la crainte d'Allah dans son cœur dans ce monde, alors jamais cette personne n'aura de crainte du jour de Qiyama. Allah mettra la tranquillité, la sakina, l'apaisement de son cœur, yawma ajma'u fihi ibadi, lorsque les serviteurs d'Allah seront ressuscités. Donc Allah nous donne cette qualité, nous permet de développer la crainte d'Allah dans nos cœurs, afin que le jour de Qiyama, nous soyons parmi les gens qui auront les cœurs apaisés, et que dès le moment où l'ange de la mort reprend notre âme, nous avons l'annonce de la paix d'Allah, et qu'Allah est satisfait de nous, et que nous retournons vers lui, et qu'Allah soit toujours satisfait de nous. Donc la prochaine fois, on va développer donc un point très important, c'est la situation donc on dit des muttaqin, le jour de Qiyama, et on ne peut parler des muttaqin sans parler des meilleures catégories des personnes, c'est Sab'a, c'est sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Ça, c'est le top, ça. Ça, c'est le summum, ça. Celui qui peut avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyama, il n'y a rien de mieux que ça. Et on va voir, il y a sept catégories de personnes, et selon notre âge, selon la situation, nous pouvons au moins aspirer à une de ces catégories. C'est des choses qui sont accessibles, qu'Allah nous les accorde. Subhanallah Rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.